Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. Prabowo et roi de Jordanie discutent de leur intention d'envoyer de l'aide en Cisjordanie. Ministre indonésien du commerce invite les pays membres du D8 à finaliser la ratification de la CPR. Célébrant 75 ans de relations, l'ambassade d'Indonésie organise une exposition de collections rares aux États-Unis. Bulog suit les orientations du gouvernement en matière de coopération avec le Cambodge. Ministère des Affaires étrangères facilite la connectivité touristique indonésienne. Banyan Investment collabore avec des entreprises indonésiennes pour travailler sur des projets carbone au Kenya. Inauguration du centre CEAS d'études sur l'Asie orientale et recherche sur les relations internationales. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles complètes. Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, et le roi jordanien Abdallah II Ben Al-Hussein ont discuté des plans visant à étendre la fourniture de l'aide humanitaire au peuple palestinien en Cisjordanie. Le chef du bureau des relations publiques du secrétariat général du ministère indonésien de la Défense, le général de brigade de l'armée nationale indonésienne, Edwin Adrian Sumanta, a expliqué mercredi dans une déclaration écrite citée par Antara à Jakarta que les deux hommes se sont rencontrés après avoir assisté à un sommet lié à la crise humanitaire à Gaza qui s'est tenu à Amman, en Jordanie, mardi 11 juin. Les deux dirigeants ont reconnu que la Cisjordanie avait également besoin d'attention car la région était également touchée par la guerre et l'agression militaire d'Israël à Gaza. Lors de la même réunion, Prabowo et le roi Abdallah II ont également discuté de la possibilité de reprendre l'envoi d'aide à Gaza par voie aérienne. Prabowo, le roi de Jordanie, a souligné que l'Indonésie était disposée et prête à contribuer à tous les efforts visant à soulager les souffrances du peuple palestinien et espérait travailler avec les pays de la région. Le 9 avril 2024, l'Indonésie et la Jordanie ont envoyé de l'aide directement depuis les airs vers Gaza à l'aide d'un avion C-130J Super Hercule de l'armée de l'air indonésienne. Lors de l'opération de livraison d'aide, 900 parapluies à air humain PUO et 50 parapluies à air pour marchandises PUB contenant des colis d'aide humanitaire ont été déployés auprès du peuple palestinien à Gaza. Le ministre indonésien du commerce, Zulkifli Hasan, a invité les pays membres des 8 pays en développement de l'Organisation de coopération économique des 8 à accélérer immédiatement le processus de ratification et à se joindre à la coopération pour réduire les tarifs douaniers entre les pays membres du D8. Accord commercial préférentiel des 8 PTA, selon lui. Avec la ratification, les pays membres du D8 pourront profiter de tarifs préférentiels et contribuer à atteindre l'objectif commercial intra-D8 d'atteindre 500 milliards de dollars américains d'ici 2030. Zulkifli, dans une déclaration à Jakarta mercredi, a expliqué que actuellement, le commerce entre les pays membres du D8 s'élève à 170 milliards de dollars américains et devrait atteindre 500 milliards de dollars américains d'ici 2030. À ce jour, 5 des 8 pays membres du D8 l'ont ratifié depuis que l'accord a été signé par tous les pays du D8. 8 ministres du commerce lors du 5e sommet des 8 à Bali en 2006. Les 5 pays, à savoir l'Indonésie, le Bangladesh, l'Iran, la Malaisie et la Turquie, Zulkifli a également proposé que les D8 prennent une initiale audacieuse en formant un accord de partenariat économique transrégional global. CTREPA, en tant que nouveau partenariat stratégique. Cette proposition a été soumise pour que le D8 puisse être de plus en plus pertinent par rapport aux dynamiques et aux défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ambassade d'Indonésie à Washington DC, en collaboration avec la Bibliothèque du Congrès, LOC, a récemment organisé une exposition de diverses collections indonésiennes rares au Capitole pour célébrer 75 ans de relations entre l'Indonésie et les États-Unis. L'événement a mis en évidence le rôle important de la LDC dans le renforcement de la compréhension de l'Indonésie par le public américain et dans la croissance des relations entre les deux pays. Le directeur des collections générales et internationales, Locke Eugene Flanagan, selon un communiqué de presse de l'ambassade indonésienne à Washington, reçu mercredi à Jakarta, a expliqué que les rares collections exposées comprennent des livres, des cartes, des tirages en série, des publi-reportages, des enregistrements sonores et autres. Certaines des collections indonésiennes exposées comprennent une copie du Babad Tanah Jawi 1861, une lettre écrite par un Bugis Sultanat obtenue lors de l'expédition Waix entre 1838 et 1842, ainsi que des manuscrits Batak écrits sur des feuilles d'écorce en 1870. Ou 1990. D'autres expositions comprennent également des œuvres picturales de Miguel Covarrubias, peintre et anthropologue d'origine mexicaine, illustrant la culture balinaise, ainsi que des livres publiés par la Fondation Lontar, Flanagan a souligné que l'exposition reflète la longue relation entre la LOC et l'Indonésie. Il a également ajouté que la bibliothèque du Congrès, LOC, LOC, est responsable du suivi et du catalogage des titres indonésiens, pas seulement pour les besoins des bibliothèques, mais aussi pour de nombreuses institutions universitaires aux États-Unis. Le directeur principal de Perum Bulog, Bayu Krishnamurti, s'est déclaré prêt à suivre les orientations et les missions du gouvernement concernant la coopération économique et les investissements alimentaires, en particulier dans le riz avec le Cambodge. Bayou, cité mercredi par Antara Jakarta, a déclaré que son parti avait également communiqué avec l'ambassade de la République d'Indonésie à Phnom Penh et avec plusieurs acteurs du commerce du riz au Cambodge et dans les pays voisins. Jusqu'à présent, Bulog a également mené une coopération commerciale sur le riz avec le Cambodge en utilisant à la fois le système BAB et le système GAG. En 2023 et début 2024. Bayou en outre a déclaré qu'il avait eu des discussions initiales avec les banques nationales concernant ces opportunités d'investissement afin de pour renforcer les réserves alimentaires. Auparavant, le ministre coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, avait déclaré que Perum Bulog acquérait des sources de riz du Cambodge. Luhut a déclaré que l'acquisition avait été réalisée sur ordre du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo. Il a déclaré avoir reçu des ordres directs du chef de l'État pour donner suite au processus d'acquisition. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie facilite la connectivité touristique via les ambassades indonésiennes dans un certain nombre de pays vers des destinations touristiques du pays, dont Bali. C'est ce qu'a déclaré mercredi le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Pahala Mansouri, en marge de l'ouverture de la 10e exposition touristique Bali Beyond and Travel Fair, BBTF en 2024 à Nusa Dua, Badung, Bali. Selon lui, le ministère des Affaires étrangères collabore également avec les gouvernements régionaux et les acteurs du tourisme dont la province de Bali. Pour sensibiliser le BBTF à un certain nombre de représentants indonésiens à l'étranger, ce qui a été réalisé il y a 4 ans. Il considère l'exposition pas seulement comme une promotion du tourisme à Bali, mais aussi comme une destination touristique en Indonésie, l'un des sites touristiques indonésiens susceptibles d'attirer des visites est un village touristique qui donne la priorité au potentiel du tourisme communiqué, offrant ainsi une expérience unique aux touristes. Le ministère du Tourisme et de l'Économie créative vise les visites touristiques étrangères en 2024 pour atteindre 17 millions de personnes. Ce nombre a augmenté par rapport à la réalisation de 2023, atteignant 11,68 millions de visites. Plus précisément pour Bali, les visites touristiques étrangères atteindront 5,2 millions de personnes en 2023 et en 2024. L'objectif est d'atteindre 7 millions de personnes. On se rend également compte qu'en 2023, nous n'avons pas encore atteint la période précédente, la pandémie de COVID-19 qui, en 2019, a atteint 6,4 millions de touristes étrangers. Banyan Investment Banking Hedge and Statutory Trust Fund collabore avec 2 sociétés indonésiennes, Eidara Matadata Presisi SA et Aeroterra Indonesia SA, dans un projet pilote humanitaire visant à trouver des gisements de carbone au Kenya. Les 2 sociétés serviront de partenaires technologiques sur le projet. Tana Balan, directrice financière par intérim du Banyan Investment Banking Hedge, and Statutory Trust Fund a déclaré mercredi dans sa déclaration à Jakarta que l'implication d'entreprises indonésiennes visait à aider le gouvernement kényan à obtenir des mesures précises des données sur les dépôts de carbone. En plus de collecter des données sur les dépôts de carbone, la technologie développée sera également utilisée pour envoyer des données en temps réel à Vera aux États-Unis pour une évaluation plus approfondie. La technologie en question est un drone doté d'une intelligence artificielle IA. Soutien du Banyan Investment Banking Hedge and Statutory Trust Fund sous la forme de fonds d'une valeur de 650 millions de dollars américains fournis par l'intermédiaire de Quantum Metal Group. Le Centre d'études sur l'Asie orientale, CEAS, a été lancé à Jakarta dans le but de devenir une plateforme pour l'étude de la région dans un certain nombre de domaines. Le directeur exécutif du CEAS, le Dr. Rijal Sukma, dans son discours lors de l'inauguration du CEAS, l'Université Prasetya Mulia, à Jakarta, a expliqué mercredi l'institution. Cette étude abordera un certain nombre de questions des relations internationales allant des secteurs politiques, sécuritaires et économiques. Le centre d'études étudiera un certain nombre de pays d'Asie orientale, dont le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Rizal a révélé que le CEAS avait deux objectifs. Premièrement, construire suffisamment de connaissances pour qu'il y ait une expertise ou des experts dans le domaine de la région de l'Asie orientale. Le deuxième objectif de l'institution est de former des ressources humaines qui comprennent les problèmes de la région et qui ont également une perspective sur l'importance de l'Asie orientale pour l'Indonésie. Selon Rizal, l'Asie orientale a également besoin du rôle de l'Indonésie pour pouvoir aplanir les problèmes de suspicion et de friction entre les pays d'Asie orientale. Parallèlement, le ministre indonésien des Affaires étrangères de 2001 à 2009, Hassan Wirayuda, a déclaré que le CEAS devait devenir une plateforme de recherche pour la région de l'Asie orientale qui est aujourd'hui le centre du monde. Hassan espère que ce centre d'études pourra mieux connaître les pays d'Asie orientale et devenir une plateforme de recherche collaborative dans divers domaines, politiques, économiques et culture. L'inauguration du CEAS a réuni de nombreuses personnalités ainsi que plusieurs représentants d'ambassades étrangères à Jakarta. Bonjour, je vais t'arrêter tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'accueil diplomatique ayant pour le titre « L'Indonésie promeut la culture lors d'un festival international au Kenya ». L'Indonésie a fait la promotion de la culture, du tourisme et de la gastronomie lors du Festival culturel international de Nairobi au Musée national de Nairobi au Kenya samedi dernier 8 juin. L'ambassadeur d'Indonésie au Kenya, Muhammad Heri Saipudin, dans une déclaration obtenue par Antara lundi 10 juin, a déclaré que la diversité des arts culturels mondiaux qui coexistent harmonieusement doit être préservée comme l'unité dans la diversité. L'ambassadeur Heri a en outre expliqué que le stand indonésien au festival avait attiré l'attention de nombreux visiteurs. L'ambassadeur de la République d'Indonésie à Nairobi a exposé diverses collections de tissus et de batik, de marques en bois et de bibelots d'objets d'art culturel provenant de diverses régions d'Indonésie. Des spécialités culinaires indonésiennes telles que le riz frit, le riz rendang, le satay de poulet, les nouilles aux boulettes de viande, les chips de tempeh et cendol étaient également exposées. L'ambassade d'Indonésie à Nairobi a spécifiquement collaboré avec une société indonésienne de production de nouilles instantanées pour populariser davantage le produit phare de l'Indonésie lors du festival. Diverses destinations touristiques indonésiennes et les potentiels d'investissement ont été promus, ainsi que d'autres activités telles que Indonex ou Indonésie Nairobi Expo qui se tiendra au Sarit Mall Nairobi et Trade Expo Indonesia 2024 à ISBSD en septembre 2024. Le festival, qui a réuni environ 8000 visiteurs, a présenté divers arts culturels, touristiques, culinaires et produits de 23 pays participants. Le festival est présenté comme un événement prestigieux organisé chaque année pour présenter et promouvoir les cultures uniques de différents pays auprès du public et des expatriés au Kenya. L'ambassadeur Heri espère que l'événement promotionnel attirera des Kenyans et des autres étrangers à venir en Indonésie à la fois pour visiter des attractions touristiques, acheter des produits et investir en Indonésie. Ces auditeurs, c'était l'accueil diplomatique pour ce soir. Ces auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur Journée mondiale du softball. La Journée mondiale du softball ne vise pas seulement à promouvoir le sport du softball, mais également à promouvoir l'activité physique ainsi que l'esprit international et l'intégration sociale. La Journée mondiale du softball est également importante pour inspirer les générations futures, filles et garçons, à atteindre l'excellence et l'autonomisation grâce au sport. Le 13 juin 2005, Don Port, qui était alors président de la Fédération internationale de softball, ou ISF, a déclaré ce jour Journée mondiale du softball. Le 13 juin également marqué la date à laquelle il a été annoncé que le softball serait inclus aux Jeux olympiques d'été. Passons maintenant à l'événement du 13 juin 1996, le vol 865 de Garuda Indonesia s'est écrasé à l'aéroport de Fukuoka au Japon. Le vol Garuda Indonesia 865 est un vol international régulier de passagers reliant Fukuoka au Japon à Jakarta, Indonésie. Le 13 juin 1996, lorsqu'il était sur le point de décoller, le ventilateur de la turbine avant du moteur de l'avion Garuda s'est cassé et s'est détaché de l'arbre du moteur, de sorte que l'équipage des pilotes a tenté d'interrompre le décollage. Même si à ce moment-là, la vitesse de l'avion avait dépassé V1 ou la vitesse à laquelle le décollage ne devait pas être interrompu. Lorsque l'équipage du pilote a tenté d'arrêter l'avion, l'avion a glissé hors de l'extrémité de la piste, provoquant l'explosion et l'incendie de l'avion, tuant 3 des 275 passagers et membres d'équipage à bord. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est commémorée dans le monde entier le 13 juin de chaque année. La Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme a été fixée par l'Organisation des Nations Unies le 18 décembre 2014 pour lutter contre la discrimination à l'égard des personnes diagnostiquées avec l'albinisme ou les albinos. Chaque année, les Nations Unies adoptent un thème unique pour souligner la réalisation des personnes atteintes d'albinisme dans le monde. L'objectif est de montrer que l'albinisme n'empêche pas une personne de vivre sa meilleure vie. En outre, cette communication vise à encourager la communauté à répondre aux besoins de ceux qui souffrent d'albinisme. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
C'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie. Et pour le titre, La récupération environnementale doit prendre en compte divers facteurs, a affirmé le ministère de l'Environnement et des Forêts. Le ministre indonésien de l'Environnement et des Forêts, Siti Nurbaya Bakar, a reçu lundi 10 juin 2024 une délégation des Émirats Arabes Unis, EAU, au bâtiment Mangala Wana Bhakti, Jakarta. La délégation de l'Émirat Arabe Unis était conduite par Madame Shaima Al-Hepsi, chef de mission adjoint de l'ambassade de l'Émirat Arabe Unis à Jakarta, qui est également présent, Dr. Fred Loney, en tant que chef de cabinet et conseiller principal de Son Excellence Razan Al-Mubarak, directeur général du Fonds de conservation des espèces, Mohamed Bin Zayed. Cette visite vise à discuter de la coopération potentielle dans les domaines de la foresterie, de la nature et du climat pour soutenir la stratégie Forestry and Other Land Use ou FOLU Net Carbon Sink de l'Indonésie 2030. Via un compte Instagram surveillé depuis Jakarta mardi 11 juin 2024, la ministre Siti Nurbaya a écrit que l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis ont établi de bonnes relations et continuent de croître le potentiel de coopération dans les domaines de la foresterie, de la nature et du climat pour soutenir FOLU Net Carbon Sink de l'Indonésie 2030. Selon la ministre Siti Nurbaya, l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis ont signé un protocole d'accord le 14 novembre 2022 pour promouvoir la coopération bilatérale ainsi que les initiatives régionales et multilatérales dans le domaine de l'environnement et du changement climatique. Lors de la conférence COP27 de Sharm el-Sheikh sur le changement climatique 2022, la ministre du changement climatique et de l'environnement de l'Émirat Arabe Unis, Mariam Bint Mohamed Al-Meiri, a annoncé le lancement de l'Alliance des mangroves pour le climat, OMAC, dirigée par l'Émirat Arabe Unis et l'Indonésie. En outre, la percée dans la mangrove a également été lancée après la réunion de haut niveau COP28 des Nations Unies. Cet effort vise à protéger plus de 15 millions d'hectares de mangroves dans le monde en 2030 en collectant des fonds de 4 milliards de dollars américains. À cette époque, selon la ministre Siti Nurbaya, l'Indonésie avait été invitée à la réunion car elle possède un énorme potentiel de mangroves et en tant que coprésidente du MAC avec l'Émirat Arabe Unis. Selon la ministre Siti Nurbaya, dans l'ensemble, le MAC et la percée dans la mangrove représentent une étape importante vers la réduction des émissions de carbone, la protection de la nature et la fourniture d'une approche intégrée de la conservation et de la restauration des mangroves impliquant diverses parties, y compris le gouvernement, les organisations non gouvernementales, ONG, les institutions financières et les communautés locales. Après la réunion, la délégation de l'Émirat Arabe Unis a également visité la pépinière Rumpin dans la région de Bogor, dans l'ouest de Java. L'objectif était de constater par eux-mêmes la mise en œuvre des politiques de réhabilitation des forêts et des terres, ainsi que de discuter avec les parties prenantes locales. Le ministère de l'Environnement et des Forêts espère que cette visite renforcera le partenariat entre l'Indonésie et la l'Émirat Arabe Unis ainsi qu'encouragera des efforts de conservation plus efficaces et durables à l'avenir. C'est du temps, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Mengapa rindu? semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku bila begitu hebatnya rasa pahit dan pilu meneru? Mengapa rindu? Mengapa harus padamu?
Mengapa rindu padamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu? Mengapa rindu padamu?
Mengapa rindu?
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Ces auditeurs, Ondel-Ondel est l'une des 8 icônes Betawi désignées par le gouvernement provincial du DKI Jakarta. La femme se présente sous la forme d'une grande poupée d'environ 2,5 mètres de haut, fabriquée à partir de bambou tressé et de manière à pouvoir être facilement transportée de l'intérieur. Le visage est un masque dont les cheveux sont en fibre de palmier. Le visage du mâle Ondel-Ondel est généralement peint en rouge, tandis que celui de la femelle est blanc. Habituellement, Ondel-Ondel se produit lors du festival folklorique ou à l'occasion de l'anniversaire de Jakarta. Cependant, pour ceux d'entre vous qui sont curieux et veulent voir par eux-mêmes, il y a un monument Ondel-Ondel dans le district de Kemayoran, au centre de Jakarta. Le monument est un monument de la culture Betawi. Au monument Ondel-Ondel se dresse une magnifique paire d'Ondel-Ondel. Les Ondel-Ondel géants mesurent 9 mètres de haut et pèsent 1,5 tonnes. Ces Ondel-Ondel reposent sur une fondation de 4 mètres de haut, ce qui leur donne une hauteur totale de 13 mètres. Cela fait du monument Ondel-Ondel de Kemayoran le plus grand Ondel-Ondel jamais réalisé en Indonésie et a remporté un record du musée indonésien des archives au Muri. Autour de cette statue géante se trouve un petit jardin soigneusement aménagé d'une largeur d'environ 2,5 mètres. Avec la présence du parc, le monument devient également une étape idéale pour les habitants qui souhaitent se détendre ou simplement discuter en famille. Ces auditeurs, le monument Ondel-Ondel inauguré le 17 janvier 2014 est une forme de souci de la communauté Kemayoran de préserver la culture Betawi. De plus, le monument a été érigé à l'initiative du Centre de gestion du complexe de Kemayoran. Bien qu'il présente une icône culturelle typique de Betawi, le monument Ondel-Ondel a été réalisé dans la région de Bantul, région spéciale de Yogyakarta. Un créateur nommé Hidayat a réussi à créer la statue géante. Lors de la réalisation, le praticien culturel Betawi Ridwan Saidi a fourni des conseils techniques concernant le monument Ondel-Ondel. C'est Zuritor, c'est à la magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia, Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Le Festival de danse de Sulawesi du Sud ». Le 8 juin, le Festival de danse de Sulawesi du Sud a été ouvert par le gouvernement par intérim de Sulawesi du Sud, le professeur Zudan Arif Fakrullah, à la région de la ville de Makassar, Lego Center Point of Indonesia, ou abrégé en CPI. Le festival, qui s'est déroulé du 8 au 15 juin, a réuni 24 000 danseurs de 24 districts et villes. Des dizaines de milliers de danseurs se sont relayés pour participer à l'activité dont le thème était « Sulawesi du Sud en harmonie ». Conformément au thème de l'événement de cette année, Zudan Arif considère ce festival comme faisant partie d'une culture unificatrice indépendamment de la filiation politique, de l'origine ethnique et des différences nationales. Le festival de Sulawesi du Sud commence par une danse colossale avec 150 danseurs de Pinangkak Bulaeng ou la Génération Dorée. Cette danse est une forme d'harmonie entre les habitants de Sulawesi du Sud dans le maintien de l'harmonie et une manifestation de l'éclat de la Génération Dorée de Sulawesi du Sud. Le Pays Ami du Japon a également présenté le spectacle traditionnel de Sulawesi du Sud, Marendeng Marampang, interprété par des danseurs étudiants à Sulawesi du Sud. De même, des danses représentatives du Kalimantan de l'Est. Chers auditeurs, chef du service de la culture et du tourisme de Sulawesi du Sud, Mohamed Arafa, a déclaré que chaque jour, quatre régions apparaîtraient. Il a également expliqué que Sulawesi du Sud compte de nombreux types de danses typiques qui sont répandues dans tous les districts et villes. Le Sulawesi du Sud compte également de nombreux studios, environ 1000 studios comptant environ 30 000 membres. Selon lui, on espère que cette performance générera un impact économique pour Sulawesi du Sud. De plus, 24 000 danseurs venus de 24 districts et villes ont participé. En plus des danses, ce festival organisera également une série de défilés de mode auxquels assisteront des représentants de chacun de 24 districts ou villes de Sulawesi du Sud. Même, y assistaient aussi les régents, les mères et leurs épouses. Le défilé de mode met en valeur le wastra, tissu traditionnel de leurs régions respectives. Le wastra qui sera porté et réalisé par un designer local de la région.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine musical. Et cette fois, je vais vous présenter une chanson du groupe pop rock de l'Indonésie, Gigi. Chers amis, Gigi est un groupe de musique pop rock formé par Dewa Bujana en 1994. La formation initiale de ce groupe de musique était Dewa Bujana comme guitariste, Thomas Ramdan comme bassiste, Arman Maulana comme chanteur, Ronald Fristianto comme batteur et Aria Baron comme guitariste. Au cours de sa carrière, Gigi a connu des changements de personnel en 1998. Gigi sort son cinquième album intitulé Kilas Balik. Cet album est la preuve que le conseil musical de Gigi a retrouvé ses caractéristiques d'origine, après avoir légèrement changé en raison d'ajustements avec le nouveau personnel. L'un des principaux singles de cet album est Turban, qui a été inclus dans les 150 meilleures chansons indonésiennes du magazine Rolling Stone Indonesia et détient le palmaire des meilleures chansons radiophoniques d'Indonésie depuis pas moins de 9 semaines. Cette chanson raconte l'histoire de quelqu'un qui veut réaliser son rêve de devenir l'amant de quelqu'un dont il rêve. Bonjour, je vais tard. Voici le groupe de musique Gigi va chanter une chanson intitulée Terbang. Bonne écoute! Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.